Bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'heure du carillon sur CFM 90.2 et sur Radio Présence. Donc, nous sommes comme d'habitude l'équipe qui est là fidèle au rendez-vous qui est le vôtre et le nôtre. J'ai autour de moi, on va commencer par
Émilie, bonjour.
Par Émilie Martens, et puis après nous avons
Didier, bonjour, prêtre à Villeneuve, dans le Villefranchois.
Et puis exceptionnellement, nous avons un autre prêtre qui est Daniel Bobby.
Oui, curé de ville à Villefranche-de-Rouergue, responsable de la paroisse Saint-Émilie.
Voilà, et responsable du doyenné de Villefranche.
Voilà.
Voilà. Alors il a cette caractéristique qu'on n'entend pas des critiques négatives sur lui, donc c'est notre Jésus à nous.
Ça, c'est un peu exagéré quand même.
Quant à toi Daniel, tu es notre bibliothèque.
Non, Didier,
pardon, oui. Oui, donc Didier, tu es notre bibliothèque, alors nous ferons appel tout à l'heure à toi. Bon, nous allons parler de l'extraordinaire fête de Pentecôte, et j'utilise cet adjectif, je dirais même ce superlatif, parce qu'à Pentecôte, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, ça s'est passé, et il y a de cela un peu plus de 2000 ans. Je vous invite un retour en arrière. À cette époque-là, un homme est né, il se prénommait Jésus, et cet homme-là avait des qualités hors du commun, à ce point que des gens ont tout quitté pour le suivre. Alors on a parlé de son disciple, il y a eu plus près de lui, autour de lui, les apôtres, qui étaient au nombre de 12. Alors ces gens-là ont, avec lui, découvert autre chose que le commun de leur vie habituelle. Ils ont reçu la parole du Seigneur, la parole de Jésus, qui les a éveillés à toute autre chose que la banalité, qui les a nourris de l'intérieur, qui a fait que ces gens-là ont été transformés à ce point-là qu'ils ont tout quitté. Il faut quand même réfléchir que de tout quitter pour suivre quelqu'un, il faut vraiment que cette personne vous apporte beaucoup de choses, et dans le cœur, et dans l'esprit, et dans l'intelligence, et dans le ressenti. Enfin bon, ces gens-là étaient transformés par Jésus. Et ces gens-là qui avaient fait confiance à Jésus, après la fête de la Pentecôte, après la fête de la Pâque juive, et il y a eu la Pâque chrétienne, la scène, et après cette scène, il y eut l'arrestation de Jésus, et cette arrestation l'a amené à être crucifié. Alors il faut quand même comprendre ce qui s'est passé dans la tête des gens qu'il avait suivis, plus particulièrement les 12. Ces gens-là se sont retrouvés, non pas trahis, mais totalement perturbés, et ils se sont dit, ils ont cloué Jésus à une croix, que va-t-il nous arriver à nous? Alors ils ont pris peur, ils ont été terrifiés, ils se sont cloîtrés, ils se sont enfermés, et là c'était la panique, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien ce qui est arrivé, c'est la Pentecôte, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, il faut quand même le réfléchir, parce qu'on dit Pentecôte, ça veut rien dire Pentecôte si on n'y réfléchit pas. Pentecôte, c'est Jésus qui est apparu après qu'il ait été crucifié. Alors je ne sais pas si vous réalisez ce que notre esprit cartésien peut admettre de cela. Et parmi les esprits cartésiens, parmi les apôtres, il y avait un esprit cartésien qui s'appelait Thomas. Alors Jésus, il l'a vu, mais il n'arrivait pas à l'admettre, à le comprendre. Il le voyait, mais d'où arrivait-il, puisque tout était fermé de partout. Il le reconnaissait, donc il avait un corps spirituel, mais il avait aussi des possibilités, puisqu'il avait traversé les murs, qui faisaient que, tout comme nous, à cette période où tout est passé par le tamis de l'intelligence propre, sans tenir compte de ce que l'on reçoit par l'esprit, ce qui invite d'ailleurs à la spiritualité, mais enfin nous y reviendrons, eh bien Thomas a eu besoin que le Christ lui dise « Mets tes mains dans mes plaies ». Et c'est là qu'il a cru avec conviction, tout comme ses amis. Et là, ils ont été tellement convaincus, parce qu'après la peur, a fait suite quoi? Ben, a fait suite qu'ils n'ont pas pu se retenir. Ils sont allés au marché, puisqu'il y avait ce jour-là du monde dans la place, à côté de là où ils avaient été cloîtrés, où ils s'étaient retirés. Et là, ça a été plus fort qu'eux, ils ont été poussés par le vent de l'esprit, et ils sont allés rencontrer les gens qui se trouvaient au marché. Qu'est-ce qu'ils sont allés leur dire? Eh bien, qu'il y avait quelqu'un qu'ils avaient suivi, ils avaient cru à lui, puis ils se posaient des questions, et puis cette personne-là, ils l'ont vu ressusciter, et ils racontaient ça d'un côté, d'un autre, et à tel point qu'ils étaient convaincants. Et ce jour-là, on dit que des centaines de personnes se sont converties. C'est le départ de notre Église qui, depuis 2000 ans, fait que d'autres personnes ont donné leur vie, nous en avons avec nous, exclusivement au service des autres, sous l'égide, je vais utiliser un autre mot, suite à Jésus, quoi. Voulant dire ce qui s'est passé suite à la Pentecôte et à Pâques, et nous avons des gens qui, aujourd'hui encore, et ils sont nombreux, donnent leur vie par Jésus-Christ pour les autres. Voilà, alors j'ai été un petit peu long, excusez-moi. J'espère que je vous ai intéressé.
Oui. Oui, j'en profite pour poser une question, puisqu'on a deux prêtres. Alors, on parle de la Pentecôte juive, et ensuite de la Pentecôte chrétienne. Mais c'est quoi la Pentecôte juive ?
Voilà, donc je vais un peu, si tu permets Michel, je vais compléter ce que tu as dit. Pour les chrétiens, ce qui est central et ce qui est au cœur de la foi, c'est ce qu'on appelle le mystère pascal. Le mystère pascal, mystère, on croit que c'est quelque chose de mystérieux, de caché, c'est pas vrai. Dans notre langage et dans l'acception que nous pouvons avoir de ce mot, mystère, c'est quelque chose que notre intelligence ne peut pas saisir de manière cartésienne, comme tu le disais, mais qui nous est donné comme un cadeau par Dieu. Ça nous est révélé. Et ce mystère pascal, c'est quoi? C'est ce que tu as rappelé. C'est passion, mort, résurrection, ascension, Pentecôte. Ça, c'est l'ensemble qui fait notre foi chrétienne, de laquelle nous vivons, pour laquelle nous vivons, et nous vous essayons d'en faire vivre aussi. Alors, le point d'orgue de tout ce mystère pascal, comme tu le disais, c'est la Pentecôte. C'est la force de l'Esprit qui envoie, qui fait des gens peureux, qui en fait des témoins, des gens enfermés, qui en fait des gens de la sortie, des gens pour tout un tas de raisons. Et pour répondre à Émilie, c'est vrai que Pentecôte, comme Pâques, sont d'abord des fêtes juives, mais qui ont pris un sens nouveau, avec le don de la vie que fait Jésus, de sa vie sur la croix et par sa résurrection, et ce don de l'Esprit Saint. Dans le judaïsme, il y a trois fêtes de pèlerinage, dont l'une qui s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est la fête des moissons. C'est la fête qui a lieu 50 jours après Pâques, mais c'est une fête aussi qui veut rappeler que Moïse a donné la loi au Sinaï. C'est les rabbins qui ont décidé ça, c'est tout à fait symbolique, 7 fois 7, 49, plus 1, voilà, 50 jours après Pâques. Donc, c'est la fin de la fête des moissons où on offrait les prémices à Dieu, et c'est l'occasion d'un grand pèlerinage à Jérusalem pour les gens de la diaspora. Alors, c'est un mot un peu barbare, j'allais dire hébreu, mais c'est grec en l'occurrence. C'est-à-dire les juifs qui sont dispersés, qui ont été hors des frontières et qui reviennent à cette occasion-là pour l'un des trois pèlerinages à Jérusalem, donc celui de la Pentecôte. Et c'est à cette occasion-là que les disciples, rassemblés, peureux, enfermés, n'osant pas sortir, reçoivent ce vent de folie, ce vent de folie d'amour, ce vent de folie de dynamisme qui va faire d'eux des témoins. Voilà la Pentecôte chrétienne à la suite de la Pentecôte juive.
Merci pour cette précision. Pardon. Et pourquoi le feu? Souvent on retrouve cette notion de feu, de souffle, de vent, comme dans le buisson enflammé de Moïse.
Voilà. Parce que le symbole, si tu veux, la présence d'un Dieu, tu sais, le feu, ça a trois caractéristiques, le feu. Mais c'est pareil pour le feu de Pâques. Le feu, ça réchauffe, ça éclaire et ça purifie. Eh bien, voilà que leur esprit est éclairé par ces lames de feu, ces langues de feu. Leur cœur est réchauffé par l'amour de Dieu. Hein, et puis, leur vie est purifiée par ce don de l'esprit pour être des témoins. Tu vois. C'est toujours la même symbolique du feu. Au buisson ardent, le feu, on le maîtrise mal. Et Moïse voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Il comprend pas. C'est la présence de Dieu. Et ce feu d'amour va brûler toute sa vie dans son cœur. Comme pour les apôtres, ce feu va brûler toute leur vie dans le cœur.
Oui, parce qu'on dit que l'Esprit Saint est descendu sous forme de langue de feu.
Sous forme de vent, de langue de feu, de bouleversement cosmique. Il y a eu presque comme un tremblement de terre et tout ça. Tu vois, tout un tas de signes qui veulent signifier la puissance de Dieu. Qui veulent signifier la puissance de Dieu, de manière symbolique, certes, mais tellement présente.
Ben, très bien.
Le vent aussi, très important.
Le vent, oui.
Dont on parle, l'air, tout ça, la force,
souffle.
L'énergie, voilà. L'énergie.
Ouais, parce que le vent, si tu veux, c'est le mot en hébreu, c'est le mot roua. Roua, c'est le souffle de vie de Dieu. Au début, nous dit la Genèse, tout était vague et vide, et l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, la roua, planait sur les eaux. Et toi, et c'est ce vent qui met en route et qui met du dynamisme.
Oui, c'est vrai que le souffle, c'est la respiration. C'est
voilà,
la...
Et puis, c'est ça.
Il est invisible aussi, comme l'Esprit Saint qui agit dans les cœurs de manière invisible.
D'accord. Voilà. Nous avons écouté des choses très intéressantes et maintenant nous allons entendre un texte lu par Émilie.
Voilà, donc si vous voulez, quand on a préparé l'émission, je dis ça pour nos auditeurs, on a dit on va lire quelques textes puisque ce coup-ci on va parler de la Pentecôte qui est la grande fête chrétienne, comme tu dis, c'est l'aboutissement de ce mystère pascal. Et donc le premier texte, il est dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, il faut continuer à les écrire, les Actes des Apôtres, mais ça on en parlera à la fin. Notre Église est chargée d'écrire les Actes des Apôtres d'aujourd'hui, mais ça... Voilà. Et on écoute ce texte, ce qui s'est passé à la Pentecôte, raconté par Luc. Voilà, on écoute.
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent les des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Oh, ils sont pleins de vilains doux !» Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute votre créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Dieu le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir.
Voilà, maintenant, pour essayer de méditer un peu ce texte, nous écoutons un morceau de musique, flûte de Pan et orgue, joué par Jean-Claude Marat et Jean Daé, et ça s'appelle « Mélodie en trio ».
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de l'heure du carillon, diffusée sur CFM Radio 90.2 et sur Radio Présence. Bon, au micro, il y a notre ami Émilie Martins, il y a Daniel Bobby, un prêtre, et un autre prêtre, Didier Grandjou. Didier Grandjou qui va s'exprimer pour faire suite au texte qui a été lu par Émilie et qui concerne la Pentecôte, le texte de la Pentecôte écrit par Saint-Luc. Voilà. Selon Saint-Luc, plutôt.
Selon Saint-Luc, voilà, oui. La Pentecôte, donc, marque la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres. C'est la naissance de l'Église. Église, ça veut dire un mot assemblée, rassemblement, convocation d'un peuple assemblé. Il faut trouver plusieurs mots pour dire la même chose, mais c'est ça, convocation d'un peuple assemblé. Donc on ne fait pas Église tout seul, on fait Église en communauté, et on est envoyé ensemble, mais chacun avec sa force, son talent particulier. Donc, cet événement est survenu 50 jours après Pâques, je le disais, à l'occasion d'un pèlerinage et d'une fête juive. L'événement de Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Dans ce mystère pascal dont je parlais, Jésus est mort pour le salut du monde, c'est le Vendredi Saint, ressuscité le jour de Pâques, parti pour rejoindre le Père à l'Ascension, c'est le jeudi, digère une dizaine de jours avant Pentecôte, et à la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l'Esprit de son Fils. C'est le couronnement de ce temps pascal. Alors voilà, les symboles, quels sont-ils ? Le vent et le feu. On en a parlé un petit mot tout à l'heure, mais reprenons ces symboles, parce qu'ils sont très importants. Une foule s'est rassemblée pour cette fête juive, je vous le disais, rassemblement. Les apôtres, les maris, quelques proches, les apôtres, maris et quelques proches entendent un bruit pareil à un violent coup de vent qui remplit la maison. C'est un premier signe de la puissance de Dieu. Voilà, Dieu est présent. Il y a un vent, un bruit, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça ébranle toute la maison. Dieu est là. Voilà. C'est le premier signe. Deuxième signe ne se fait pas attendre. Une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d'eux. Ce feu de Dieu, c'est le cas de dire, ce feu d'amour, ce feu qui réchauffe, pardonnez-moi de répéter, mais c'est tellement important, hein, un feu qui réchauffe, qui éclaire et qui purifie, ce feu de Dieu vient se poser en partie sur chacun. Personne, aucun ne le possède en entier, mais chacun en a une part. Eh bien, l'Église d'aujourd'hui, c'est ça. Ensemble, nous sommes le signe de Dieu, et personnellement, nous sommes tous marqués par cette présence de Dieu dans notre vie. Et voici le troisième prodige. Rempli de l'Esprit-Saint, signifié par ce vent et ce feu, ils se mirent à parler d'autres langues.
Alors, on se dit, à quoi ça sert d'autres langues ? Voilà,
se faire comprendre.
Se faire comprendre, surtout, comme je l'expliquais, qu'on est à l'occasion d'une fête de pèlerinage où t'as des gens de partout qui arrivent. Sur le marché de Villefranche, tu parles, pas toi si tu veux, tu parles français, tu as des chances d'être compris par tout le monde. L'été déjà moins, parce que il peut y avoir des Hollandais, des Anglais, il peut y avoir des gens qui viennent d'ailleurs, des Flamands, des Wallons, des Allemands. Donc il faut parler plusieurs langues pour se faire comprendre. Mais les commerçants savent faire, rassure-toi. Mais donc, voilà. Donc, et eux, ils font pas commerce, mais... Pour annoncer cette merveille que Dieu est vivant et qu'il nous appelle à la vie, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent dans d'autres langues. Ainsi se réalise la promesse du Christ faite aux apôtres au moment de son ascension. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Vous recevez par cette force pour être, je sais pas qui moi, les Superman du coin. Non, non, vous recevez cette force pour être témoin. Mais témoin de quoi ? Témoin du salut. C'est quoi le salut ? Je reviens toujours avec ces mêmes thèmes, mais c'est tellement important. Le salut, c'est la certitude que notre désir d'aimer et d'être aimé est totalement réalisé en Christ. Nous sommes faits pour aimer et être aimés.
Ça veut dire donc que s'ils doivent être compris par tous les peuples, toutes les nations, ça veut dire que le message, si je comprends bien, il s'adresse à tout le monde.
À tout le monde.
Pas uniquement aux juifs.
Non, 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 le message est universel. Mais si tu veux, pour être universel, mais c'est vrai pour chacun de nous, il faut avoir des racines. Donc à partir de là, de ce terreau, on peut se répandre. Si t'es de nulle part, tu resteras toujours de nulle part. Si t'es de quelque part, tu peux te répandre. Hein. Voilà.
Alors on dit aussi que Pentecôte est la fête de l'Esprit Saint. Tu parlais de l'Esprit Saint, peut-être ce serait bien de désigner aussi, d'en parler de ce fameux Esprit Saint.
Alors, ça, ça paraît très vague, très abstrait.
Oui, voilà. Voilà. Alors si tu veux, l'Esprit Saint, on a toujours dit que c'était le divin méconnu. Parce que Dieu Père, on l'imagine bien, avec sa petite barbe ou sa barbe, assis sur son nuage ou pas, mais peu importe, et le gros nounours dans le ciel, on l'imagine. Enfin, pardonnez-moi, mais l'imagerie populaire, un Dieu Père, ça veut dire quelque chose. Hein? Un Dieu Fils en Jésus qui a partagé notre condition humaine, ça veut dire quelque chose. Mais une force d'amour qui les unit, qui les fait à la fois semblables et différents, alors ça, on a du mal.
C'est un peu comme les ondes ou l'électricité.
Oui,
qu'on ne voit pas.
On ne le voit pas. C'est pour ça qu'on parle de vent, qu'on parle de feu, qu'on parle de manifestation de l'esprit. Mais si certaines personnes ont eu dans leur cœur la révélation, pardon, après la résurrection, Jésus se fait reconnaître. C'est toujours Jésus qui se fait reconnaître dans les récits d'apparition. Vous voyez, Jésus, il se fait reconnaître. L'Esprit Saint, jamais. On le sent, tu vois, c'est ce vent, c'est cette force.
C'est l'histoire du vent, ouais, je
voilà.
crois.
Voilà.
Et que le jour de Pâques, quand Jésus souffle sur ses apôtres et qu'il dit « Recevez l'Esprit Saint », c'est la même symbolique, hein, c'est la force.
La force, oui, il souffle pour donner l'Esprit Saint. Ouais. C'est un souffle de vie, tu vois, l'Esprit Saint. Et un souffle de vie, donc un souffle d'amour, parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose.
Alors, ce souffle de vie, ce souffle d'amour, est-ce qu'il est d'actualité aujourd'hui? Parce qu'on parle des apôtres qui l'ont reçu, mais est-ce que de nos jours, on peut prétendre à recevoir l'Esprit Saint?
Bien sûr. Alors, si tu veux, il y a plusieurs choses. Déjà, l'Esprit Saint, nous le recevons au baptême. Alors, il se marque par quoi au baptême? Alors, bien sûr, on est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. On est baptisé dans le mystère pascal qui prend son achèvement, son couronnement à la Pentecôte. Mais un des premiers gestes du baptême, qui passe souvent inaperçu, c'est l'imposition des mains. Et l'imposition des mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, prêtre ou diacre, je te baptise, mais je te baptise pas en mon nom. Je te baptise avec la force de l'Esprit de Dieu, au nom du Seigneur pour être baptisé dans le Christ. Alors moi, Didier, j'ai aucun pouvoir là-dedans. C'est l'Esprit Saint. Donc c'est pour ça que le baptême commence par l'imposition des mains. Et ensuite, il y a ces marques. Donc là, on se reçoit aussi un cierge pascal, un cierge allumé au cierge pascal, tu vois, ce feu symbolique. On reçoit un vêtement de fête. Alors, tout ça, c'est des choses qui se voient, mais pour signifier une réalité invisible, mais agissante, qui est la force de l'esprit, avec le don du Saint-Crème aussi. Et donc, comme on le fait aux enfants tout petits, il y a de nouveau le don du Saint-Crème à la confirmation, qui est le sacrement de l'esprit. Alors, souvent, ça paraît, alors voilà, malheureusement aujourd'hui on comprend pas trop bien et puis il y a une désaffection des sacrements, surtout de la confirmation, il y a une grande désaffection et c'est bien dommage parce que justement la confirmation c'est le sacrement où tu reçois l'esprit pour faire de toi un témoin. Le sacrement qui te dit, eh bien cher ami, prends ta place dans l'église, qui que tu sois. Quoi que tu fasses, quelle que soit ta vie, prends ta place dans l'église et sois témoin.
La confirmation, c'est une nouvelle Pentecôte pour aujourd'hui. C'est ça, en fait. Et je crois que pour être pleinement chrétien, il faut justement avoir reçu ces trois sacrements qu'on dit de l'initiation, le baptême, la communion ou l'Eucharistie et la confirmation, qui nous fait pleinement chrétien.
Mais tout ce que vous nous dites est plein d'espoir.
Oui. Alors, si tu veux, ce récit des actes est très significatif. Le vent et le feu manifestent, comme dans bien d'autres récits de la Bible, la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l'Esprit Saint sur tous ceux qui étaient présents et sur nous aujourd'hui. La bonne nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l'Esprit permet aux apôtres de répondre à l'appel du Christ, être ses témoins jusqu'au bout de la terre. Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et hors de la vie du monde, mais au contraire, à proclamer clairement la bonne nouvelle du salut. Voilà,
donc
le
là,
salut.
En plus d'être disciples, ils vont devenir missionnaires.
Exactement.
Alors, du synode.
Alors voilà, on en reparlera tout à l'heure. Alors ce qui est très étonnant, c'est que jamais, dans le Nouveau Testament, on parle de missionnaire. On parle de témoin. Notre mission, c'est d'être témoin. Alors, vous voyez, c'est un petit raccourci. Disciple, on comprend. Missionnaire, voilà. C'est notre mission que d'être missionnaire.
Aller dans le monde entier, voilà, c'est la mission.
C'est la mission. Ouais. Mais on ne parle pas du mot missionnaire. Voilà. Donc, c'est une seconde chose. On va écouter, parce que...
Oui, voilà.
Un deuxième morceau de musique. Alors, je l'ai pris dans la liturgie chorale de Sylvanès. C'est un répond pour la Pentecôte. « Je répandrai mon esprit sur toute chair ».
Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute, pour ceux qui sont déjà à notre écoute, de CFM Radio 90.2 et de Radio Présence. L'émission s'appelle L'Heure du Carillon. Elle est animée par Didier Grandjou, par Émilie Martins et par Daniel Bobby et Michel Montbressous.
Alors, je me pose la question, parce qu'il y a un texte dans la Genèse qui parle de la tour de Babel, et là, j'ai l'impression que à Pentecôte, c'est l'inverse qui se produit. Dans le récit de la tour de Babel, les hommes s'installent dans un endroit, veulent rester tranquilles, ils veulent bâtir une haute tour qui jusqu'au ciel, et ils parlent la même langue. Et là, Dieu vient les confondre et leur faire parler plusieurs langues pour qu'ils ne se comprennent pas. Alors que dans la Pentecôte, ils parlent plusieurs langues pour que tout le monde les comprenne.
C'est vrai que la Pentecôte, dans notre tradition et dans la pensée chrétienne, c'est l'anti-Babel. L'anti-Babel, l'anti-confusion. Et la Pentecôte, elle est là pour créer un peuple, et pas pour disperser un peuple, pas pour... Alors voilà, ce qui s'est passé, on va écouter le texte tout à l'heure, dans une seconde, là, dans quelques secondes. Ce qui s'est passé, c'est que on parle du péché des origines. Le péché des origines, c'est vouloir se mettre à la place de Dieu et se prendre pour Dieu. Alors, tu vois que ce péché des origines, il est encore bien actuel. Il y a combien de gens, et moi parfois aussi, qui veulent se prendre pour Dieu. Hein, on l'entend tous les jours. Et ça peut arriver, je dis, dans nos vies personnelles. Pourquoi je dis ça? Regardez, si tu manges, Dieu dit dans le récit mythique de la Genèse, si tu manges du fruit de cet arbre, hein, tu connaîtras le bien et le mal et tu seras comme Dieu. Allez, tentation terrible, je veux être comme Dieu et je mange du fruit. Donc, tu vois. Autrement dit, le péché des origines, c'est vouloir prendre la place de l'autre. Qu'il soit Dieu ou qu'il soit un frère. Si je te vole quelque chose, c'est que je considère que ce qui est à toi est à moi. Ce qui n'est pas vrai. Donc, je me mets à ta place et puis je ne te respecte pas en tant que différent de moi. Bon. Eh bien, à la tour de Babel, c'est pareil. Ils veulent construire une tour très haute, ils s'unissent pour construire cette tour très haute pour monter jusqu'au ciel en disant on va piquer la place de Dieu. Tu vois, c'est un peu ça. Enfin, je le dis d'une façon un peu simple, mais on va s'asseoir à la place de Dieu et puis comme ça, on sort. Et ils sont unis pour faire ça. Et Dieu dit, écoutons le texte.
Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
Le problème de Babel, c'est que ils veulent s'unir, mais par rivalité. Ils veulent s'unir, vous voyez, pour être concurrents de Dieu, alors qu'ils devraient être partenaires de Dieu. Et c'est pour ça que le langage qui les unissait, eh bien, va les disperser et va leur empêcher de mener à bien cette œuvre à des fins de rivalité, de concurrence et donc de se prendre pour Dieu. Voilà, c'est ça. Et à la Pentecôte, c'est tout le contraire. Pour annoncer la merveille de Dieu et s'unir au projet de Dieu, pas s'opposer au projet de Dieu, s'unir au projet de Dieu, eh bien voilà que toutes les langues, chacun les comprend dans sa langue et que la bonne nouvelle est annoncée. Alors la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce Jésus que vous aviez crucifié, ce Jésus discrédité par les hommes, pour faire un jeu de mots, a été accrédité par Dieu. Dieu l'a ressuscité, il l'a fait Christ, et voilà. Et ce Christ, dans sa résurrection, nous entraîne tous à être ressuscités avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire, je le répète, à réussir en amour. À réussir notre projet de vie qui est aimer et être aimé. Voilà, c'est ça la Pentecôte. Donc c'est bien l'anti-Babel. D'ailleurs, si on va plus loin dans la Bible, parce qu'il y a une cohérence, c'est pas les hommes qui bâtissent une ville. David disait, je te bâtirai une maison. Non, le Seigneur lui dit, non, c'est moi qui te bâtirai une maison, c'est-à-dire une descendance, un peuple, c'est moi qui te bâtirai. Et à la fin de l'Apocalypse, ce livre qui nous dit un peu les fins dernières, hein, ce qui va arriver, Apocalypse, ça veut dire révélation, lever le voile, nous ouvrir sur ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Eh bien, c'est que la nouvelle cité, elle vient de Dieu. Elle nous est donnée par Dieu. C'est pas nous qui la construisons. Nous allons l'habiter comme nous allons habiter en Dieu. Ben voilà, la Pentecôte, c'est tout ça qui est suggéré.
D'accord, alors on va parler des dons de l'Esprit parce que l'heure avance. Mais auparavant, j'aimerais savoir, par rapport aux auditeurs que nous avons, quelle est la part de la symbolique dans ce texte sur la tour de Babel?
Ah mais, alors, il faut être très clair. Hein. Les premiers livres de la Genèse sont des livres symboliques, tout à fait. Ils veulent nous dire des choses essentielles sur notre vie, sur la révélation que Dieu se révèle aux hommes. Les hommes essaient de comprendre Dieu, et à partir de là, pour traduire cette compréhension, ce mystère de Dieu, ils écrivent des textes, hein, en disant, mais on a un Dieu d'unité, un Dieu d'amour, un Dieu qui veut le bien de son peuple, et le peuple s'est toujours opposé à Dieu. Il y a toujours eu des ruptures d'alliance, tu vois, et ça depuis Adam, Noé, enfin ainsi de suite, quoi. Hein. Et donc, c'est bien un texte symbolique, mais attention, symbolique ne veut pas dire faux.
Non, mais voilà. D'accord.
Non, mais parce que souvent quand on dit symbolique, les gens ils disent ça y est, ils y croient plus et tout. C'est pas vrai. C'est la manière. Si tu veux. Quand j'offre un bouquet de fleurs, quand j'avais ma maman ou quand quelqu'un j'aime, j'offre un bouquet de fleurs. Hein, les fleurs, c'est des fleurs. Je veux dire que elles peuvent être vues de différentes façons. Donc c'est tout l'aspect symbolique, poétique, qui disent l'amour, qui disent l'affection, qui disent le réel. Donc le réel qu'on peut pas exprimer avec des mots, avec un raisonnement sensé ou une histoire, ben on l'exprime avec une symbolique.
Voilà. Donc l'enseignement de l'Ancien Testament passe essentiellement par la symbolique.
Oui,
c'est important de le dire.
Oui, jusqu'aux prophètes pratiquement, quoi. Voilà. Hein, mais on va pas faire de l'archéologie biblique. Il y a des plus savants qui le font.
Donc ils vont recevoir l'Esprit Saint à la Pentecôte, qui va leur donner donc le courage et la force de sortir et d'aller évangéliser. Mais quoi encore?
Alors, il y a deux choses. Quand on parle de l'Esprit Saint, on parle des fruits de l'Esprit, et on parle des dons de l'Esprit. C'est pas tout à fait la même chose.
Ah bon?
Les fruits de l'Esprit, non. Les fruits de l'Esprit, écoute, je t'ai donné le texte aussi, dans Galates 5. Tu l'as, tu veux bien le lire, s'il te plaît?
C'est les dons qui donnent les fruits?
C'est les fruits qui donnent les dons.
Ah bon, c'est la même. On va
écouter. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres.
Voilà. Si tu veux, les fruits de l'Esprit, tu vois bien que c'est, de toute façon, on y aspire tous, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, tout ça. Et on les a traduits en dons. Alors ça, c'est la tradition biblique, tu vois. Et on a traduit en dons 7 dons de l'Esprit, parce que 7, c'est le chiffre de la perfection, mais ils ne sont pas clos. La liste n'est pas close. Et si tu veux, derrière chaque don, fruit de l'Esprit, amour, il y a bien des manières de vivre d'amour et de faire vivre d'amour. Il y a bien des manières de vivre de joie et de faire vivre de joie. Tu comprends? Il y a bien des manières d'incarner la paix, de vivre la paix et tout. Et donc, on a traduit ça en crainte filiale, piété filiale, conseil, force, science, intelligence, sagesse. Et voilà. Et ces dons de l'Esprit, on les manifeste à la confirmation pour que chacun les reçoive en vive. Alors comme je dis toujours, moi c'est, pardonnez-moi, je répète souvent ça, mais je dis toujours, on est là pour vivre et en faire vivre, tu vois. Je les reçois, mais pour en faire vivre d'autres, vivre et faire vivre, c'est toute notre action. Et saint Paul, aux Galates, c'est les premiers écrits du Nouveau Testament et les épîtres de Paul. Donc déjà, tu vois, il parle de cette force de l'Esprit qui nous fait sauter les verrous de la peur, qui nous fait oser, qui fait de nous des témoins. Alors, toute la difficulté pour nous chrétiens, et alors on le sent bien aujourd'hui, c'est comment différencier le témoin, celui qui veut partager ce qui le fait vivre, ce qui l'épanouit et ce dont il pense que ça peut épanouir tous les hommes, et puis le prosélyte, c'est-à-dire celui qui veut convaincre de force comme ça, tu vois, voilà. Alors ça, c'est très compliqué, mais enfin bon, c'est une autre question.
Oui, c'est vrai que les dons de l'esprit, c'est quand même c'est un langage un peu barbare. Moi, je pense à crainte filiale, par exemple. Ouais. La crainte, c'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Ouais.
La crainte, c'est pas la trouille. Voilà.
Oui, voilà.
Par exemple, crainte, je prends ce don de l'esprit, parce que c'est vrai que ça mériterait une explication de chaque don.
Oui, de chaque. Mais alors, la crainte, parce que c'est vrai que c'est celui qui fait le plus de difficultés. La piété, on comprend bien. Le conseil, on comprend bien en qui je mets mon conseil. Est-ce que c'est dans mon banquier ou c'est dans l'amour de Dieu, quoi. Enfin, voilà, je prends des choses. La force, où je trouve ma force, tu vois, la science, l'intelligence, la sagesse, tout ça, un peu comment. Crainte, Quand dit tu craindras tes parents, ça veut dire que tu as peur de ton père pour qu'il te mette des coups? Non. La crainte, c'est le respect. Le respect reconnaissant. Tu vois? Et alors, il y a une attitude de respect reconnaissant comme d'un fils vis-à-vis de son père. C'est pour ça qu'on parle de crainte filiale. Un respect reconnaissant. Tu vois? Ce qui n'empêche pas le dialogue, ce qui n'empêche pas parfois l'opposition ou l'incompréhension. Je te comprends pas. Je te comprends pas, mais j'essaie de te respecter. Un respect reconnaissant.
Il aurait mieux valu traduire par respect, finalement.
Ah oui, monsieur, tu veux ça? Alors, le problème, c'est que,
on a c'est issu, c'est issu de Isaïe 11. On a repris Isaïe 11. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, ces termes sont liés à un passage biblique, quoi.
Tu vois, oui, parce que, voilà, cette liste trouve son origine dans le livre d'Isaïe. Alors, je vous le lis, un rejeton sortira de la source de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Tu vois, voilà. Ça vient de là. Bon. On va écouter un brin de musique et puis on va passer à la dernière étape, la Pentecôte pour aujourd'hui.
Voilà.
Et puis, alors, le troisième morceau que j'ai choisi, c'est Chemin d'Évangile. C'est des chants un peu catéchétiques de Cécile et Jean-Noël Glinger.
Dans ton coin, à regarder passer le temps, prépare-toi et bouge-toi, il est grand temps de t'embarquer.
Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Jésus-Christ. Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Dieu dans ta vie.
Bateau, accroche-toi, regarde au loin et n'aie pas peur. En capitaine ou matelot, nous avons tous besoin de toi.
Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Jésus-Christ. Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage.
Nous franchirons les océans avec l'Église et ses témoins. Nous tiendrons bon pour avancer.
Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Jésus-Christ. Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Dieu dans ta vie.
Tout au long de la traversée, nous ferons naître l'unité, nous ouvrirons nos yeux, nos mains pour accueillir et partager.
Va au large, au vent de l'esprit, fais équipage avec Jésus.
C'est l'heure du carillon sur CFM Radio 90.2 et sur Radio Présence avec Émilie Martins, Didier Grandjou et Daniel Bobby qui va intervenir. Pour Festidouze, il va vous expliquer, c'est une grande fête qui se prépare pour Pentecôte. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Pentecôte. Alors à la technique, j'avais oublié de la nommer, c'est notre amie Léna.
Oui, merci Léna. Donc je suis chargé de vous présenter cette grande fête de Pentecôte. Pentecôte pour aujourd'hui, grande fête de l'église en Aveyron, du diocèse de Rodez, qui s'appelle Festidouze, comme Michel vient de le dire à l'instant. Alors cette grande fête en Aveyron, c'est la Pentecôte pour aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Pentecôte pour aujourd'hui, c'est le 4 juin 2017, de 9h à 17h. Alors vous savez que nous sommes en synode, c'est-à-dire en marche ensemble, voulu par notre évêque, Mgr François Fonlu, et un synode qui a duré pendant 2 ans. Et donc la clôture de ce synode est prévue donc le 4 juin 2017. Et nous sommes tous invités. Alors je suis chargé un petit peu de mobiliser toutes les énergies pour cette journée, de cette journée du 4 juin à Rodez. Ouais. Donc vous êtes invités tous à Rodez de 9h à 17h. Alors bus seront organisés dans chacune des paroisses. Alors, Didier, je sais que un bus est prévu aussi pour la paroisse Sainte-Thérèse.
À Villeneuve, oui.
Donc, départ, on peut le dire. Hein,
oui, voilà. Ça sera départ alors à 8 heures, soit place de la Dîme, s'il n'y a pas les calèches. Et s'il y a les calèches, ça sera sur le parking du U-Express.
Voilà, et pour la paroisse Sainte-Émilie, c'est-à-dire Villefranche-de-Rouergue, départ prévu avec deux bus réservés, place Fontange à 8 heures aussi, et retour prévu à 18h30. Voilà, donc nous sommes tous invités à cette grande fête. Les objectifs, c'est quoi? C'est on attend environ 3000 personnes, plus, on espère. Mais les objectifs, c'est célébrer le synode, c'est fêter cette clôture du synode, c'est promulguer et accueillir les actes du synode qui seront donnés par notre évêque, et puis donner le coup d'envoi de la suite, parce que c'est pas une fin, c'est pas une clôture. J'aime pas beaucoup ce mot clôture d'ailleurs. Je préfère parler de coup d'envoi, de perspective, quoi, de mise en perspective. Donc nous serons tous accueillis autour de la cathédrale. Nous espérons qu'il fera beau. Nous serons tous accueillis autour de la cathédrale par les jeunes professionnels qui nous accueilleront à partir de 9h, avec animation musicale. Donc enfants, jeunes et adultes, tous autour de la cathédrale à 9h. Suivis, nous serons envoyés ensuite et disséminés dans plusieurs lieux de la ville de Rodez pour des forums, avec 5 forums thématiques. Il y aura 5 lieux différents pour des adultes. Des forums thématiques, alors je l'ai dit, mais peut-être ça évoquera pas grand-chose pour nos auditeurs, mais vous verrez, venez, vous verrez. Le premier thème, c'est accueillir. Donc, puisque le synode s'est penché sur un peu 5 axes de réflexion, sur la qualité d'accueil, accueillir, sur éclairer, comment nous sommes témoins de cette bonne nouvelle dont Didier parlait tout à l'heure, communier, c'est-à-dire comment nous vivons en frères, célébrer comment nous ressourçons notre foi, et puis servir comment nous sommes au service de nos frères. Voilà les 5 axes prévus pour les adultes. Il y a 2 forums supplémentaires qui seront proposés. Un pour les familles, c'est-à-dire les enfants et les parents, les enfants du primaire et leurs parents. Donc un forum spécifique là-dessus sur les 5 axes que je viens de citer. Un forum aussi prévu dans un autre lieu pour les collégiens, aussi sur les 5 axes dont je viens de parler. Alors tous ces forums sont animés par des bénévoles, en particulier des membres de l'Assemblée synodale qui ont réfléchi sur ces 5 axes, mais aussi par des groupes musicaux, et puis aussi par des personnes venant des paroisses qui présenteront des actions un peu innovantes. Voilà, donc ces forums seront animés par des bénévoles, 6-7 personnes par forum. Voilà, donc venez découvrir tout cela. Je n'oublie pas aussi que les lycéens et les étudiants sont invités aussi. Alors on a prévu pour eux une animation un peu particulière. Nous savons qu'il y a des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite. Et donc les lycéens et les étudiants sont invités à se mettre à disposition de ces personnes à mobilité, personnes âgées ou personnes à mobilité réduite, pour les véhiculer d'un forum à l'autre, puisque en fait les forums sont prévus avec un roulement et de façon à ce que chacun puisse participer au moins à 3 forums dans la journée.
Si tu permets, je ne sais pas si tu as parlé des collégiens.
Oui.
T'en as parlé, je t'ai distrait sans doute, parce que souvent on entend dire nos jeunes, et je les comprends, hein, on s'ennuie à l'église, on n'est pas nombreux, on n'est que 2 ou 3. C'est une occasion, qu'ils y aillent souvent ou pas, de se retrouver entre jeunes, de vivre quelque chose de sympa, autour bien sûr d'un message, autour d'un projet d'église, de peuple de Dieu, mais pas pour se tremper toujours dans l'eau bénite, mais pour vivre quelque chose d'important, réfléchir, et ils se retrouveront ensemble. C'est pour ça que je dis aux jeunes, même si tu hésites à venir à la messe le dimanche, ce que je peux comprendre, ça ne veut pas dire approuver, mais ce que je peux comprendre, eh bien viens là, parce que tu auras des copains, des copines, et puis tu pourras vivre quelque chose de dynamique.
Oui, tu as raison d'insister là-dessus, parce que je l'ai pas assez dit. C'est-à-dire qu'il y aura des animations particulières pour chaque âge. Donc les collégiens, par exemple, je sais qu'il y a un grand jeu qui se prépare, par exemple pour les collégiens, donc qui se prépare un peu sur et adapté à leur âge. Il y a aussi les enfants et les familles aussi, des actions aussi particulières, des activités aussi tout à fait particulières. Alors aussi, j'en rajoute aussi, avec des jeunes professionnels qui nous auront accueillis le matin, ils seront partout en ville pour aider à guider les gens. gens et guideront les gens tout au long, enfin tout au long de la journée. J'ajoute, dans la journée, alors il y a des flyers qui sont diffusés partout, des tracts qui sont diffusés un peu partout. Vous les retrouverez dans les églises, mais aussi sur les marchés, etc. J'ajoute que les jeunes professionnels, il y a un lieu particulier aussi qui sera animé toute la journée par les communautés contemplatives. Ça sera la chapelle de l'évêché à Rodez, de 10h à 15h. Donc un lieu de prière et d'adoration pour porter aussi cette grande journée dans la prière. Ensuite, donc le programme, donc là j'ai évoqué la journée. Ensuite nous convergerons vers la cathédrale. Donc vous voyez, l'accueil se fera autour de la cathédrale et se terminera aussi à la cathédrale. Donc nous convergerons vers la cathédrale à partir de 14h30. Et à 15h, notre évêque nous accueillera dans sa cathédrale, où il présentera les actes du synode. Alors, qu'est-ce que sont les actes du synode? Ce sont en fait les grandes orientations à la suite de ces 2 ans de réflexion et de partage. Ce sont les grandes orientations pour notre église, pour les années qui viennent, quoi. Et donc là, notre évêque prévoit une présentation. Sans doute, il nous remettra aussi un texte écrit, mais en tout cas, il nous le présentera de manière orale. Et suivi d'une grande célébration eucharistique et une messe festive à 16h. Donc, en principe, tout devrait se terminer vers 17h, 17h30. Donc, venez partager, je crois, cette joie d'être disciple missionnaire. On disait que c'était le thème du synode, hein, disciple missionnaire pour que les hommes aient la vie. Venez partager cette joie. Notre évêque nous attend. C'est une journée exceptionnelle qui nous attend, à ne manquer sous aucun prétexte. Où serez-vous le 4 juin? J'en suis sûr, à Rodez.
Et n'oubliez pas le pique-nique.
Ah oui, mais il y a autre chose que je voulais dire. Tout à l'heure, on a commencé par lire le livre des Actes. Et vous avez entendu, il faisait référence au prophète Joël. Pourquoi faire un synode? Pourquoi se réunir? Pourquoi une Pentecôte pour notre Église? Et dans le texte de Joël, il est dit « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Et moi, j'aime bien une traduction qui a été faite par un pasteur, un exégète pasteur, qui a dit « Vos fils et vos filles inventeront l'avenir. » Et aujourd'hui, c'est le défi qui est lancé à notre Église, en Aveyron, comme à l'Église de France et puis à l'Église universelle, inventer l'avenir, pour que les hommes puissent goûter, toucher, vivre cette bonne nouvelle. Il nous faut inventer l'avenir, et les moyens qu'on avait il y a 50 ans et même aujourd'hui ne sont plus adaptés à cela. Donc on va inventer l'avenir ensemble.
Et nous, inventons l'avenir.
Ensemble. Voilà. Et on écoute un dernier morceau de musique en se disant au revoir. Et puis, je ne sais pas de quoi on va parler la prochaine fois. On n'a pas encore décidé.
On n'a pas décidé, je comprends.
Voilà. On va voir ça. De toute façon, vous avez rendez-vous avec l'heure du carillon dans un mois.
Merci.
Joyeuse est la terre. Elle a donné son premier fruit de gloire. Jésus est monté près du Joyeuse est le pan de la promesse.
Viens.